Il est 14h à Paris, midi en temps universel, 8h à Washington. Merci d'écouter RFI.
RFI midi.
Et c'est l'heure du Grand Journal International. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La Chine riposte fortement après les décisions de Donald Trump concernant les droits de douane. Le gouvernement chinois va imposer à son tour des droits de douane supplémentaires de 34% sur toutes les importations de biens américains à partir du 10 avril. Nous dira Claire Broadhurst de Pékin. Les marchés européens replongent après cette annonce. Nouvelle offensive terrestre de ce matin à Gaza. Les opérations s'intensifient et le bilan annoncé par la défense civile palestinienne fait état de 30 morts. Nous retrouvons à Jérusalem Michel Paul pour nous détailler cette attaque. Aux États-Unis, le patron et le numéro 2 de la NSA, l'agence nationale de sécurité américaine, limogé par Donald Trump. Une épuration de plus dans les services de renseignement américains totalement bouleversés depuis 2 mois, nous expliquera Juliette Chignon du service international. Des scènes de liesse et de joie à Séoul, nous racontera Kaïm Ruiz après l'annonce officielle de la destitution du président sud-coréen par la Cour constitutionnelle. Enfin en France, la semaine olympique et paralympique se termine aujourd'hui. Plus de 500 000 jeunes ont pu participer à des événements sportifs. Gros plan dans le journal avec Solène Ravenel sur le nouveau complexe sportif Prisme en Seine-Saint-Denis, l'occasion de découvrir ce lieu qui accueille le sport adapté.
RFI Midi.
Et Olivier, les réactions se multiplient après l'onde de choc provoquée par l'annonce de Donald Trump de droits de douane massifs pour les partenaires commerciaux des États-Unis.
Les principaux partenaires commerciaux des États-Unis cherchent la parade face au coup de massue infligé par Donald Trump. Il faut dire que tout le monde a été stupéfait par l'ampleur de l'offensive américaine qui rebat les cartes du commerce mondial. La Chine passe donc à son tour à l'offensive avec 2 annonces. Cléa Broadhurst, bonjour, vous êtes à Pékin.
Oui, bonjour.
La Chine va donc saisir l'Organisation mondiale du commerce et surtout Pékin va imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril. Les marchandises expédiées avant la date limite et arrivant avant le 13 mai sont exemptées, Cléa.
Oui, et donc la Chine frappe fort, des droits de douane de 34% supplémentaires sur toutes les importations américaines. C'est une mesure exceptionnellement large qui ne cible pas un secteur, mais l'ensemble des produits américains. Pékin envoie ainsi un signal clair, ce n'est pas une simple protestation, mais de vraies représailles. Et dans le même temps, 16 entreprises américaines sont placées sous contrôle des exportations et 11 autres ajoutées à la liste noire des entités peu fiable. La Chine mobilise donc tous ses leviers juridiques avec des répercussions directes sur les chaînes d'approvisionnement high-tech et sur les secteurs liés à la défense. Un autre signal très fort, Pékin impose désormais des contrôles à l'exportation sur certaines terres rares stratégiques comme le terbium ou le dysprosium qui sont essentiels à l'électronique et aux industries militaires. Et la Chine, vous le disiez, a également déposé une plainte à l'OMC se positionnant comme défenseur du multilatéralisme face à ce qu'elle qualifie d'intimidation unilatérale de Washington. Alors cette escalade pourrait marquer un tournant contre mesures américaines, durcissement chinois, un impact croissant sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, voire une accélération du découplage économique entre les deux puissances.
Cléa Broadhurst, en direct de Pékin, cette annonce de la Chine fait replonger immédiatement les bourses européennes. La bourse de Francfort dévisse de 4,46%, Paris chute de 3,8% et Milan dégringole de plus de 7%. Alors Agnieszka Kumor, il y a des pays comme la Chine qui montrent les muscles et d'autres qui préfèrent négocier.
Après Pékin, c'est au tour d'Ottawa de dégainer en retour et de taxer certaines voitures américaines. Si le Canada n'a pas subi de nouveaux droits de douane, le pays paye tout de même un lourd tribut dans cette guerre commerciale avec des surtaxes qui touchent une partie de ses exportations. Quant à l'Union européenne, Bruxelles menace de s'attaquer aux services numériques américains tout en se disant prête à négocier. L'argument des Européens, un marché intérieur riche de 450 millions de consommateurs. La réponse de l'Europe sera unie, forte et appropriée, assure le chancelier allemand sortant Olaf Scholz. La première salve, mi-avril, sera sur l'acier et l'aluminium déjà surtaxés aux États-Unis. La deuxième, plus massive, interviendra 2 semaines plus tard. Mais jusque-là, les entreprises françaises sont priées par le président Emmanuel Macron de s'abstenir d'investir outre-Atlantique. Le Japon, quant à lui, veut garder la tête froide. Le premier ministre nippon se dit prêt à prendre l'avion pour aller à Washington pour négocier en personne.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI.
Et on reparlera de cette hausse des droits de douane, de ses conséquences sur le commerce mondial dans 10 minutes avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Institut français des relations internationales.
Au Proche-Orient, l'armée israélienne affirme avoir lancé une nouvelle opération terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Les opérations militaires israéliennes ont fait 30 morts dans la bande de Gaza et ce n'est pas un bilan définitif selon la défense civile à Gaza. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors l'opération terrestre a visé Gazaville.
Oui, c'est une nouvelle offensive qui se déroule plus précisément depuis la nuit dernière dans le secteur de Shejaïa. C'est un des plus grands quartiers de Gazaville. Un porte-parole militaire a indiqué dans la matinée qu'Israël a éliminé des combattants du Hamas et détruit des infrastructures, notamment un centre de commandement. L'objectif à ce stade, élargir la zone de sécurité qu'Israël entend désormais contrôler dans l'enclave palestinienne pour faire pression sur le Hamas. Auparavant, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne avait ordonné l'évacuation de la population civile de l'est de la ville de Gaza après un tir de roquette intercepté en direction du kibboutz frontalier de Nahal Oz. Hier, un bombardement israélien sur une école de Gaza abritant des déplacés a fait 31 morts et des centaines de blessés, selon la défense civile gazaoui sous contrôle du Hamas. L'organisation accuse Israël de viser délibérément des civils innocents. Israël, de son côté, affirme ne pas pouvoir confirmer cette frappe.
Merci beaucoup, Michel Paul, en direct de Jérusalem. Dans le même temps, l'armée israélienne a intensifié ses frappes en Syrie et au Liban, voisins, tuant avant l'aube deux membres de l'embranche armée du Hamas dans un raid aérien contre un bâtiment à Saïda. C'est une ville du sud du Liban. La frappe est intervenue malgré le cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre à une guerre meurtrière entre les Hezbollah libanais pro-iraniens, alliés du Hamas et Israël. Les brigades des Ezzedine Al-Qassam confirment dans un communiqué la mort du commandant Hassam Ahmad Farhat, son fils également membre des brigades, et sa fille. Aux États-Unis, le patron de la NSA, l'Agence nationale de sécurité, a été limogé par Donald Trump jeudi. Une épuration de plus dans les services de renseignement américains, chamboulés depuis deux mois. Juliette Chénion.
Ce limogeage intervient après une réunion entre le président des États-Unis et l'influenceuse complotiste d'extrême droite Laura Loomer, cette dernière ayant suggéré à Donald Trump de se débarrasser d'officiels du ministère de la Défense jugés déloyaux. C'est pour ça que le général Ho a été viré, assure la militante sur la plateforme X. L'adjointe de Timothy Ho a également été remerciée de la NSA, tout comme au moins 5 responsables du Conseil national de sécurité. Dans la presse américaine, des experts s'alarment du licenciement surprise de Tim Ho, 30 ans de carrière militaire. La NSA, l'agence de cyberespionnage parmi les plus puissantes et les plus critiques du gouvernement, joue un rôle essentiel dans la sécurité nationale. Tim Ho perd aussi son poste à la tête de la cyberunité de l'armée, chargée notamment de contrer les ingérences étrangères en ligne comme les usines à trolls russes en 2018. Côté démocrate, c'est l'indignation, réaction du sénateur Mark Warner. Dans un moment où les États-Unis font face à des cyberattaques sans précédent, en quoi le virer pourrait apporter plus de sécurité aux Américains?
Juliette Chénion du service international de RFI, et j'ajoute que selon une source officielle du Washington Post, c'est le général Hartmann qui prend la tête de la NSA.
En France, c'est un soutien dont le Rassemblement national semble vouloir se passer.
Celui de Donald Trump. Cette nuit, le président américain a dénoncé une chasse aux sorcières à l'encontre de Marine Le Pen, dénonçant notamment sa peine d'inéligibilité. Libérer Marine Le Pen, voilà ce qu'a écrit en lettres capitales Donald Trump sur son réseau Truth Social, dénonçant également une guerre juridique menée par la gauche européenne pour museler la liberté d'expression et censurer un adversaire politique. Plus tôt dans la journée, c'était J.D. Vance qui prenait la parole pour dénoncer une manœuvre pour l'empêcher de participer à la présidentielle. Et ce n'est pas la première fois que le républicain prend position pour la députée. Mais Grégoire Morelli, bonjour.
Bonjour Olivier.
Du côté du Parti à la Flamme, on accueille ces prises de parole avec retenue alors que les sympathisants du Rassemblement National sont attendus ce dimanche à Paris pour manifester et dénoncer ce que Marine Le Pen qualifiait de scandale démocratique.
Eh oui, alors tout d'abord, pas de commentaire sur la réaction de Washington. Les élus du Rassemblement national refusent de réagir après les propos du président américain, comme ils l'ont fait après le soutien reçu du Premier ministre hongrois Viktor Orban ou encore du Kremlin. Car en toile de fond, vous le disiez, dit Olivier, il y a le rassemblement de dimanche, un rassemblement qu'une partie des oppositions, à droite comme à gauche, dénonce. Xavier Bertrand, par exemple, le président LR de la région Hauts-de-France, s'inquiète d'un remake de la prise du Capitole, référence au 6 janvier 2021, où des militants trumpistes avaient pris d'assaut le siège du Congrès américain. Interrogé sur LCI hier soir, Jordan Bardella a écarté toute tentative de coup de force et assure au contraire que le rassemblement de dimanche est un soutien à la démocratie française. À noter d'ailleurs que Marine Le Pen n'a pas de bons souvenirs du premier mandat de Donald Trump. Elle, qui avait fait le déplacement pour rencontrer le républicain début 2017, avait été finalement éconduite par le nouvellement président élu. Depuis, aucune relation officielle n'a été établie.
Merci Grégoire Morelli. Une contre-manifestation aura lieu place de la République à Paris à l'appel des écologistes et de la France insoumise. Le Parti socialiste, lui, ne participera pas dimanche à ce rassemblement contre l'extrême droite pour ne pas donner l'impression que la condamnation de Marine Le Pen est une décision politique.
RFI Midi.
Une nouvelle attaque de drones russes sur la ville ukrainienne de Kharkiv. Bilan 4 morts et 35 blessés. Parallèlement, la France et la Grande-Bretagne ont dépêché à Kiev leur chef d'état-major. Les deux pays affirment que la Russie frappe toujours des infrastructures énergétiques en Ukraine et accusent donc Moscou de saboter les efforts de paix américains. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle confirme à l'unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol. Il est chassé du pouvoir immédiatement. Il avait tenté il y a 4 mois d'imposer la loi martiale. La Cour estime que les actions de Yoon avaient violé les principes fondamentaux de l'état de droit et de la gouvernance démocratique. Notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz, s'est rendue au cœur de la capitale, sur la place principale, auprès des manifestants pro-démocratie qui ont explosé de joie à l'annonce de cette décision très attendue.
Des cris, des applaudissements et même une fanfare. Certains manifestants se sont effondrés en pleurs de joie, d'autres se sont pris dans les bras. Derrière ses lunettes de soleil, Cho Byun-ho, 56 ans, essuie une larme discrète.
Je suis venu ici plein d'espoir et j'ai été tellement touché que j'ai un peu pleuré. Je suis ravi et très soulagé. C'était une décision évidente et elle a sauvé notre pays de la crise.
Lee Eun-so, 25 ans, a déjà prévu de fêter la nouvelle.
Je vais aller manger avec mes amis dans un bon restaurant. Nous nous sommes beaucoup mobilisés, alors nous allons en parler et nous féliciter de nos efforts.
Le soulagement se lit sur beaucoup de visages. Han Eun-young, 57 ans, a du mal à contenir sa joie.
J'ai du mal à réaliser. Je suis vraiment très heureuse. Enfin, nous pouvons retrouver nos vies d'avant et continuer à vivre en démocratie.
La comédienne pense déjà à l'élection présidentielle qui doit se tenir dans les 2 prochains mois.
Lee Jae-myung est le seul à se soucier vraiment des gens. Il fait vraiment bien son travail. Ce doit être lui.
Le rival de Yoon Suk-yeol par grand favori. La date exacte de l'élection doit être annoncée dans les 10 prochains jours. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Il est 14h13 à Paris. La semaine olympique et paralympique se termine aujourd'hui.
Plus de 500 000 jeunes ont pu participer à des événements sportifs mis en place en 2017. Ce programme a pour but de sensibiliser à la pratique sportive, mais aussi parasportive. Dans le nouveau complexe sportif Prisme, les étudiants en filière sport de Sorbonne Paris Nord ont organisé une journée pour découvrir le sport adapté. Dans la matinée, de nombreuses personnes en situation de handicap ont pu s'essayer aux différentes activités encadrées par les étudiants. Un reportage de Solène Ravenel.
Trois couleurs différentes, vous êtes d'accord ?
Les élèves sont très attentifs aux consignes des étudiants de l'université Sorbonne Paris Nord, devenus professeurs pour un jour.
On est heureux de pouvoir organiser une journée de sensibilisation aux différents parasports.
Boris Pérez est enseignant en activité physique adaptée et santé à l'université, il a organisé la journée.
Nos étudiants viennent animer des ateliers sur des activités pour lesquelles ils sont formés.
Cette année, l'événement est en partenariat avec le Prisme, un complexe sportif spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap qui reçoit régulièrement des établissements médico-sociaux. Caroline Duval est directrice du centre.
Nous, on a convié les établissements médico-sociaux qui viennent habituellement pour découvrir de nouvelles activités qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer.
Certains ont pu découvrir le cécifoot et ils ont vraiment apprécié la séance, raconte Saliou, leur éducateur.
C'est très bien organisé, les jeunes se sont très bien impliqués.
C'est Sophia qui a animé l'activité, une première pour elle.
C'est un petit peu compliqué parce que c'est un public que j'ai jamais vu, donc c'est vraiment c'est des comportements que je peux pas anticiper. C'est très enrichissant et j'ai vraiment appris plein de choses.
Mais elle remet déjà en place son atelier, le deuxième groupe est déjà arrivé.
Un reportage de Solène Ravenel à l'occasion de la fin de la semaine olympique et paralympique en France.
Dans votre journal, Olivier Charman, merci beaucoup, à tout à l'heure. Et le journal des sports, c'est avec vous, Christophe Diremzian. Bonjour.
Bonjour.
Football, coup d'envoi ce soir de la 28e journée de Ligue 1 qui doit, sauf grosse contre-performance, sacrer le Paris Saint-Germain demain.
Et demain, ce sera devant le public du Parc des Princes. Ce sera l'occasion de la réception d'Angers, 14e du classement, à partir de 15h, temps universel. Un match nul suffira à ne plus étirer le faux suspense et attribuer un 13e titre au PSG qui se concentrera ensuite sur son quart de finale aller de Ligue des Champions contre Aston Villa. C'est derrière que la bataille va continuer de faire rage pour les deux autres places directes en Ligue des Champions. Et la quatrième, synonyme de tour préliminaire, occupée pour l'instant par Nice. Les Aiglons reçoivent Nantes, 13e. Et c'est plus que jamais le moment de renouer avec la victoire après deux défaites et un nul qui ont fait perdre du terrain aux joueurs de Franck Haise. Mais pour lui, ce n'est pas le moment de se polluer l'esprit avec trop d'interrogations.
Vraiment, le message, il est clair. C'est justement de tout envoyer. Il reste 7 matchs. On joue, on envoie. Et après, si on doit terminer loin, on terminera loin. C'est qu'on n'aura pas été assez performant dans la durée de la saison. Mais je crois qu'on a les... Enfin, c'est pas je crois. Je suis persuadé qu'on a les moyens. Donc, je pense qu'on doit aller plus loin et arrêter de se poser. Si tenter quand certains se posent des questions, arrêtons de s'en poser et jouons au foot. Moi, je veux juste qu'il y ait zéro regret quand on va se quitter le 18 mai. Donc, vivons les 7 matchs et les 6 semaines qui restent avec du plaisir, de l'engagement, du jeu, et puis s'il y a des équipes qui sont meilleures que nous, ils nous battront, ce ne sera pas la fin du monde.
Franck Haise, l'entraîneur de Nice, avant d'accueillir les Canaries nantais à 18h45 TU. La 28e journée de Bundesliga démarre également ce soir avec le déplacement du leader, le Bayern Munich à Augsbourg. C'est à 18h30, temps universel. Kevin De Bruyne et Manchester City, ça sera bientôt officiellement terminé. L'international belge de 33 ans, en fin de contrat, a confirmé ce matin son départ du club. Citizen depuis 2015, sacré 6 fois champion d'Angleterre et champion d'Europe 2023. Il s'en ira à l'issue d'une saison compliquée. City ne joue en effet déjà plus le titre en Première Ligue et en Ligue des Champions.
L'équipe de France féminine de foot, elle dispute sa 3e journée de la Ligue des Nations.
Après un bon départ, 2 victoires à domicile sur la Norvège et l'Islande, les Bleus vont tâcher de poursuivre sur leur lancée en Suisse, précisément à Saint-Gall, la ville où les Françaises s'installeront en juillet pour l'Euro 2025 et vont y disputer d'ailleurs un de leurs 3 matchs du premier tour contre le Pays de Galles. Mais ça, c'est dans 3 mois. Et si le hasard du calendrier fait bien les choses pour une petite familiarisation, il ne faut pas anticiper l'échéance, estime le sélectionneur tricolore Laurent Bonnedeille.
Ça sera l'occasion de prendre les repères, de prendre connaissance des lieux et puis de s'imprégner du contexte. Donc c'est une bonne chose. Après, il faut pas toujours avoir en tête qu'il y a l'Euro. C'est vrai que c'est la compétition très importante de cette année 2025. Et il faudrait pas que les joueuses commencent à faire les matchs en avance et de se dire qu'on joue à Saint-Gall contre le Pays de Galles. Non, on joue contre la Suisse. Ça va être un match très difficile parce que la Suisse, c'est une équipe, déjà avec la coach qui a un sacré palmarès et qui fait progresser cette équipe. Une équipe rajeunie avec des gros potentiels. Donc, vraiment qu'on soit focalisé sur ce match. On est à Saint-Gall, c'est vrai, mais on n'est pas encore à l'Euro.
Laurent Bonnedeille, Suisse-France à 18h, temps universel. Parmi les autres matchs, l'Espagne est au Portugal et l'Angleterre reçoit la Belgique.
Un week-end de rugby également à venir avec les huitièmes de finale de la Coupe des Champions.
Et pas moins de 6 clubs français concernés, à commencer par Toulouse, tenant du titre, opposé dimanche aux Anglais de Sale. Mais c'est Clermont qui va ouvrir le programme aujourd'hui sur la pelouse d'un autre club anglais, Northampton.
Merci beaucoup, Christophe Diremzian.
RFI Midi, Alban Le Prince.
On ne parle donc que de ça depuis 48 heures. Le Liberation Day, le jour de la libération voulue par Donald Trump, s'est plutôt transformé en cauchemar pour l'économie mondiale. Une guerre commerciale lancée par le président américain qui fait vaciller les bourses de la planète. Quand la géopolitique s'invite dans le business, comment réagir? Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Amérique à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et auteur du podcast hebdomadaire New Deal en partenariat avec Slate.fr qui suit l'actualité politique américaine. Première question, la décision de Donald Trump d'imposer ses nouveaux droits de douane, est-ce la fin de la mondialisation heureuse des années 90?
C'est
peut-être la fin, on va voir, parce que c'est pas, vous savez, il est quand même très imprévisible, donc on n'est pas complètement certain non plus que tout ce qu'il a annoncé mercredi soit réellement appliqué. Ce qu'on peut dire en tout cas, pour retourner votre question, c'est que c'est pas non plus le début, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, parce qu'en réalité, les attaques contre la mondialisation et le retour d'un certain protectionnisme, Trump l'avait déjà fait pendant son premier mandat, et en réalité, le président Biden, donc le démocrate entre 2017 et 2021 et 2024, avait lui aussi continué dans cette ligne. Alors de manière moins excessive, c'est certain.
Est-ce qu'on peut parler de tournant majeur dans l'histoire économique, histoire avec un grand H ou pas du tout ?
Oui, je pense, mais une fois de plus, ce tournant majeur, donc auquel Trump donne cette semaine un énorme coup d'accélérateur brutal et excessif, tout ce qu'on veut, il est engagé en réalité depuis les années 2015. Si on fait encore un pas en arrière et qu'on regarde sur la longue durée, cette mondialisation heureuse des années 90, comme vous l'avez dit, les électorats, dans nos pays occidentaux en ont assez depuis les années 2010, depuis la crise de 2007-2008, en réalité la grande crise financière, qui a fait prendre conscience à beaucoup de gens que la mondialisation ne fonctionnait pas pour eux, je pense notamment aux classes moyennes. Et c'est pour ça qu'on a eu le Brexit, c'est pour ça qu'on a eu la première élection de Trump. Et aujourd'hui, ça n'est que la confirmation de ce grand mouvement, de ce grand retour en arrière sur la mondialisation.
Donc, quand Donald Trump insulte les autres pays en disant que ce sont des charognards, c'est à cause d'eux que les entreprises américaines vont mal, c'est pas nous, c'est eux, c'est une stratégie qui fonctionne auprès de son électorat ou des Américains en général ?
Oui, ben là, je pense que, si vous voulez, c'est la fin de la mondialisation, mais à la Trump, c'est-à-dire que c'est jamais de sa faute, on peut blâmer la terre entière, c'est extrêmement agressif. Alors, ça va plaire à son électorat, ça c'est sûr, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont élu, mais ça ne plaît pas du tout au milieu d'affaires, aux bourses, aux investisseurs, donc ça va être un problème.
Ben oui, parce que Laurence Nardon, Donald Trump, c'est un chef d'entreprise. Pourtant, avec ces hausses de droits de douane, on le voit, les bourses dévisent. Beaucoup d'entreprises, y compris américaines et même Tesla, disent qu'elles vont se retrouver en difficulté. Il y a aussi le risque de récession. Pourquoi il fait ça ?
Eh bien parce que il a derrière lui, même dans son administration, dans son électorat, plusieurs courants idéologiques qui sont pas d'accord sur cette question des tarifs douaniers. Vous avez les populistes d'extrême droite qui sont vraiment très pour, parce qu'ils veulent la fermeture des frontières à l'immigration, mais aussi au libre-échange. Donc c'est cela qu'on a vu lors du Liberation Day. Mais il a avec lui aussi, dans sa coalition, ce qu'on appelle les libertariens de la tech, des gens comme Elon Musk, et qui, vous avez raison, sont pas du tout d'accord. Eux, ils veulent continuer à faire du business, à exporter, à importer. Et donc, ils se sont tus cette semaine, mais je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Donc, les Républicains ne soutiennent pas tous Donald Trump dans cette offensive commerciale.
Oui, absolument, ils soutiennent pas tous Donald Trump. Le problème, c'est que, comme c'est un personnage assez impressionnant et assez brutal, Donald Trump, il y a un effet de presque d'emprise psychologique. Il faut que les gens, pour beaucoup d'entre eux, ont peur de s'exprimer. Alors là, je parle pas tant des libertariens de la tech comme Elon Musk, mais je parle des républicains traditionnels qui sont en fait des libéraux au sens économique du terme. Donc pour eux, le protectionnisme, c'est pas une très bonne idée du tout.
On a appris il y a quelques minutes le dépôt d'une plainte aux États-Unis. A priori, ce serait la première. Une plainte qui vient d'une organisation qui attaque ces droits de douane qui visent particulièrement la Chine. 10% en janvier, 20% en février, puis les annonces il y a deux jours. Elle estime que Trump n'en avait pas le droit. Est-ce que vous pensez que d'autres plaintes pourraient suivre? Et surtout, est-ce que Trump pourrait être contraint de reculer?
Alors oui, ça c'est une excellente question. C'est en fait ces plaintes qui vont être déposées ou celles que vous mentionnez, elles se fondent sur l'idée que le commerce c'est une prérogative du Congrès et que donc Trump en tant que président n'a pas le droit de mettre en place des tarifs douaniers parce que c'est l'exécutif, or c'est le législatif qui devrait le faire. Alors ça sur le fond c'est pas complètement carré parce qu'en fait le président a quand même un certain nombre de pouvoirs dans ce domaine. domaine. Donc, on va voir ce que disent les cours. Mais ce que ça pointe de manière très importante, c'est que aujourd'hui, face à Trump, les contre-pouvoirs institutionnels américains sont à la manœuvre et notamment par le biais de recours juridiques. Et toute la question, ça va être de savoir si, dans les semaines qui viennent, si des cours de justice, notamment la Cour suprême, rendent des jugements qui sont défavorables à Trump et à son administration, eh bien, est-ce que Trump obéira aux injonctions des tribunaux ?
Et qu'est-ce que vous pensez-vous ?
Ah ben, je pense. Ben écoutez, les tribunaux, mais c'est pareil en France, n'ont pas de police, pas d'armée pour faire appliquer leurs décisions. Ça, c'est les autres pouvoirs qui doivent les appliquer d'eux-mêmes. Et donc, c'est en effet, j'ai pas la réponse. C'est la grande question. Si Trump refuse, c'est la crise constitutionnelle.
Merci beaucoup, Laurence Nardon. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Amérique à l'Institut français des relations internationales et auteur de Géopolitique de la puissance américaine aux presses universitaires de France.
RFI Midi.
C'est la première visite d'un haut responsable russe à Washington depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans. L'émissaire économique spécial de Vladimir Poutine a rencontré des représentants de l'administration Trump. Et alors que le président américain dit toujours vouloir trouver une issue rapide en négociant avec Moscou, la lune de miel entre les chefs d'État russes et américains semble connaître une éclipse, car les Européens, exclus des négociations, réaffirment leur position. Pas de levée des sanctions contre Moscou avant le retrait des troupes d'Ukraine. Résultat, les relations déjà très tendues entre le Kremlin et Bruxelles le sont encore plus. Ce ne sont plus les États-Unis qui sont qualifiés d'adversaires à la télévision à Moscou, mais la France ou encore le Royaume-Uni. Illustration à Kaliningrad, enclave russe isolée entre la Pologne et la Lituanie, depuis toujours décrite comme le baromètre des relations entre l'Europe et Moscou, avec Anis El-Jabri.
Kaliningrad, fin de journée, un stade dans la ville, une partie de football, des coureurs sur la piste et 2 adolescents de 17 ans venus s'entraîner pour leur futur concours d'école supérieure.
Je postule à l'école navale de Saint-Pétersbourg parce que je considère qu'être militaire dans notre pays est un honneur.
Moi, je postule à l'école supérieure d'artillerie de Moscou parce que je suis un patriote et que je veux défendre mon pays jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je suis convaincu que les Iskander sont des armes de haute technologie capables d'accomplir n'importe quelle mission. Et je suis fier que nos scientifiques puissent réaliser de telles performance avec cette arme.
Les Iskander sont déployés à Kaliningrad depuis 2018. Ces missiles sont capables d'envoyer des charges conventionnelles ou nucléaires à 500 km. Ils peuvent donc atteindre plusieurs pays voisins de l'Union européenne. Cette fierté pour Eugène et Pavel, membres d'un des clubs militaro-patriotiques de la ville, est partagée, insufflée par le dirigeant de l'association. Il a demandé à être présenté sous le nom de Maxime Maximovski.
C'est bien que tout le monde y pense et les craigne. C'est très bien. C'est notre totem de protection. Bien sûr, nous sommes un os dans la gorge de l'Europe.
Base de la flotte russe de la mer Baltique, Kaliningrad et ses 15 000 km² sont une forteresse ultra militarisée au milieu de pays de l'OTAN. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions, les tensions avec les voisins directs, Pologne, Lituanie, ne cessent d'augmenter. Pourtant surnommée la Russie européenne, Kaliningrad a longtemps été, au vu de sa position géographique, très intégré à l'économie de l'UE. En 3 ans, Sergueï Gos, patron d'une entreprise de camions de fret international, a dû réorienter toute son activité. Son chiffre d'affaires, dit-il, n'a pas été affecté, mais 3 ans après, il décrit encore la rupture avec émotion.
La manière dont les choses se sont passées entre nos collègues occidentaux et nous a été très laide. Et malheureusement, on s'en souvient encore. On attendait une commande d'équipement, elle était payée, et tout d'un coup, l'argent nous a simplement été renvoyé, et on nous a dit qu'on ne recevrait rien. C'était vraiment moche et on devrait toujours se souvenir, avant de claquer la porte, qu'on pourrait devoir la rouvrir.
Ce n'est pourtant franchement pas pour maintenant. Les déclarations des dirigeants de l'Union européenne ont bien été reçues ici, y compris par Sergueï Gos.
Les sanctions n'ont pas été imposées pour ensuite être annulées rapidement.
Anis El-Jabri, Kaliningrad, RFI.
Allez, restez avec nous sur RFI dans une minute à peine. Afrique Midi avec Nicolas Sur.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Bom dia, ici c'est Gabriela Lima, artiste brésilienne, et j'ai le bonheur de vous annoncer que mon nouvel album, Sabor Solaire, que l'on pourrait traduire par « Saveur solaire » est disponible sur toutes les plateformes. Il sort sous mon label « Biel » en partenariat avec RFI Talent.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Bien sûr qu'elle s'est faite chasser de la cuisine de sa grand-mère à Cotonou. Ce ne sont pas les pâtes ou les jacks qui lui ont été transmis, mais la force, la volonté. Ce n'est pas une toque qu'elle a sur la tête, mais un feutre. The Woman King, Georgiana View, la première chef noire étoilée de France, est à notre table ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, avec Clémence de Navy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.